Accelerate.
Bonjour à tous et bienvenue sur Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets d'innovation avec celles et ceux qui la font. Cette voix est celle de Warco Brienza et c'est sous cet acronyme que vous me retrouvez dans les différents médias sociaux. Vous retrouvez tous les épisodes d'Accelerate Podcast sur audiolab.ch ainsi que sur les principales plateformes de podcast. Aujourd'hui, on va vous parler de santé. Parce que la santé, c'est un domaine de prédilection pour l'innovation, du moins en Suisse, hein, avec ses big pharma. On connaît Novartis ou Roche, même au-delà des frontières suisses, hein, cette dernière, donc Roche, étant pas seulement la plus grande entreprise pharmaceutique de Suisse, mais également la deuxième au monde en termes de capitalisation boursière. Donc c'est pas rien du tout. Et ce qu'on a encore au top, c'est des hôpitaux, au top des classements internationaux. Hein, le CHUV de Lausanne ou le HUG de Genève sont respectivement classés au 11e et au 32e rang du classement du magazine Newsweek. Hein. C'est le classement 2022 dont je parle. Et je terminerai en mentionnant les instituts de recherche, eux aussi soit voués aux sciences de la vie, soit à la santé plus généralement, et qui permettent à cette santé de faire également recette en Suisse. Donc la vallée de la santé, ou Health Valley, hein, par analogie avec la Silicon Valley que tout le monde connaît, elle couvre la région de Suisse occidentale. Alors la Suisse occidentale, c'est un petit peu plus large en fait que la Suisse romande, et donc francophone. Et c'est là que le secteur des sciences de la vie s'étend, hein, entre Genève et Berne, et passe à travers 7 cantons. Hein, Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais et Vaud. Un cluster qui représente ainsi plus de 750 entreprises, hein, petites ou grandes, 20 000 collaborateurs, 500 laboratoires universitaires et 5 000 chercheurs. Donc il y a une belle concentration de compétences et qui permet aux scientifiques, aux entrepreneurs et aux investisseurs de discuter ensemble et de créer des synergies plus facilement, plus rapidement. Et j'en connais un autre qui est rompu à l'exercice de l'innovation, c'est Thierry Daguef qui m'accompagne aujourd'hui. Salut Thierry.
Bonjour Marco, merci beaucoup de m'avoir invité.
C'est un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui, hein, parce que tu es un innovateur de longue date. Et cette innovation, tu la rends possible au sein de l'écosystème santé avec deux casquettes que tu portes, deux casquettes complémentaires. Donc celle de chef de projet pour le CILAB, c'est le laboratoire de l'innovation qui est hébergé par l'Institut et Haute École de la Santé La Source, ici à Lausanne. Et pour H4, le tout nouveau hub d'innovation collaborative qui est dédié, là encore, aux soins et à la santé dans le canton de Vaud. Mais je crois que le plus simple, ce serait peut-être que je te laisse la parole afin que tu puisses résumer ce long parcours professionnel dans l'innovation. Je te passe la main.
Oui, volontiers. Je suis flatté de cet intérêt pour ma petite personne. Moi, c'est long parce que j'ai 57 ans et je vais essayer de dresser un peu un fil rouge parce que je suis parti de loin de la santé. J'ai un doctorat en physique que j'ai obtenu avec une thèse dans le domaine du chaos, des systèmes ordonnés, désordonnés surtout. Et le fil rouge, c'est un peu cet intérêt pour la détection d'ordre au sein du désordre et aussi de désordre au sein de l'ordre, cet intérêt pour les systèmes émergents, comme on dit. Et cet intérêt, je l'ai appliqué dans mon approche de l'innovation et même, je dirais, si j'ose dire, du management. Donc, je suis très intéressé par cet équilibre qu'il y a entre l'impossible et le possible qui reste toujours fragile. Et c'est ça que j'essaie de gérer dans l'innovation. J'ai travaillé ensuite dans la recherche en innovation et en intelligence artificielle. Là, j'ai aussi beaucoup appris parce que j'ai travaillé dans les systèmes de ce qu'on appelle des agents autonomes et donc d'intelligence collective qui émergent de nouveau. On n'apprend pas aussi aux agents autonomes à collaborer et on fait en sorte que, d'une certaine manière, ils finissent par collaborer ensemble. On a travaillé avec des philosophes, des éthologues, donc c'est aussi un domaine extrêmement enrichissant. J'ai aussi beaucoup développé, du coup, sur de programmes. Je me suis beaucoup intéressé à l'interface utilisateur. Déjà aussi dans ma thèse et à la question de comment nourrir d'informations et d'interactions à l'utilisateur d'une manière extrêmement efficace. Entre deux, j'ai travaillé chez Kudelski où j'ai aussi fait beaucoup de choses différentes, mais notamment j'ai terminé chez Kudelski comme aide de l'innovation pour la télévision digitale. Donc là, je suis venu vraiment au développement, à la programmation, au team lead. Et puis, ce que j'ai sorti de tout ça, c'est vraiment cette approche des processus de l'innovation. C'est ça que j'ai amené au CILAB en 2019. Le CILAB qui avait, sur la vision de sa fondatrice, la doctoresse Dominique Truchot-Cardo, commencé à avoir du succès et devait pouvoir accompagner justement des innovateurs dans le monde des soins.
Très bien, merci pour ce résumé fort précis. Alors maintenant, on va mettre l'accent sur CILAB et sur H4, les deux fameuses casquettes que tu as sur la tête. Et je me demandais les particularités de ces deux institutions. Alors, il y a forcément de la santé et il y a forcément de l'innovation, mais encore.
Le H4, c'est le Hands-On Human Health Hub. Alors, on est parti dans l'anglais, parce qu'on adore l'anglais dans le monde du business, l'innovation, la technologie, etc. Vous nous excuserez, parce qu'en fait, c'est le hub vaudois, hein, vraiment de soutien à l'innovation dans les soins en santé. Donc, la première particularité, c'est ce focus sur les soins. On avait de la difficulté, déjà avec le C-Lab, à accueillir des projets d'innovation, parce qu'on cherche du financement, et que les structures, par exemple, comme InnoSuisse, ont de la peine à reconnaître cette verticale de la santé, et encore plus des soins. On était un peu retoqués de dire oui, vos projets, c'est du social, du sociétal, ou c'est de la technologie, ou c'est un petit peu entre les deux. Et ça, le canton l'a entendu, il est venu cofinancer avec l'Institut La Source le projet H4 qui permet d'accueillir les innovateurs dans les soins. Alors pourquoi les soins, hein? Il y a une vraie nécessité quand on regarde les enjeux en santé aujourd'hui. Il y a un grand lien avec la notion de soins, de soignants et d'infirmières. On a la population vieillissante, on a plus de patients souffrant de maladies chroniques, non pas qu'il y ait des nouvelles maladies chroniques, mais les gens ont une espérance de vie plus grande. Ça donne aussi des polymorbidités, des cas plus complexes, donc demandant plus d'accompagnement. On a une fin de l'hospitalocentrisme pour aussi adresser un autre enjeu du domaine de la santé qui est la maîtrise des coûts, dont on parle assez. Donc la fin de l'hospitalocentrisme consiste à déplacer une partie des soins de l'hôpital vers le domicile le plus vite possible par rapport à certaines interventions et pathologies. Et tous ces gens souffrant de ces différentes conditions voient énormément, finalement, d'infirmiers et d'infirmières dans le soin à domicile, dans l'hôpital. C'est finalement le personnel soignant qui est le plus présent et que vous allez le voir le plus. Donc pour nous, pour résoudre et aborder ces enjeux de la santé, il faut absolument embarquer avec le patient, le soignant au plus proche du patient, qui est l'infirmier et l'infirmière, ce qui ne nous empêche pas de travailler, évidemment, avec les médecins. Donc à travers ça, une deuxième spécialité, c'est vraiment l'approche hands-on, comme dans le hands-on du H4, c'est-à-dire une approche pratique. Ce que nous faisons, nous, c'est pas d'incuber des startups, d'accélérer des startups ou de faire du mentoring entrepreneurial. Ce que nous faisons, c'est que nous recevons les porteurs de projets. On essaie de comprendre les vrais problèmes qui sont autour du domaine auquel ils s'attaquent. On essaie de leur faire comprendre quelles sont leurs hypothèses critiques, quelles sont les vraies questions importantes, les questions qui sont telles que s'ils répondent à ces questions, ils vont vraiment faire un pas important dans leur projet. Donc on est vraiment dans une approche de proof of concept. On va identifier l'expérience qui va leur permettre de procéder et de progresser d'un pas qu'on espère suffisamment grand pour valider, voire des fois invalider leur idée et leur concept. Et on va monter cette expérience avec eux et du coup avec le personnel soignant, avec les gens impliqués dans les processus qu'ils essayent de mettre en œuvre.
Donc, alors ça, c'est pour H4 et pour C-Lab.
Alors, le C-Lab, au début, faisait ça, mais d'une manière pro bono. Et c'est donc justement le grand avantage qu'on a maintenant grâce à l'État, c'est d'avoir une partie des frais que ça engendre, d'accompagner ces innovateurs avant d'avoir un soutien InnoSuisse sur un projet spécifique. C'est de pouvoir le faire avec l'Institut, mais aussi avec le canton. Donc on a repris cette activité du C-Lab. Le C-Lab, ça reste le laboratoire d'innovation de l'Institut et Haute École de la Santé La Source. Et donc ça reste une entité académique. Et ça signifie un certain nombre de choses. On garde ses activités pédagogiques, donc d'enseignement. Et on a notamment l'objectif d'entraîner les étudiants et le personnel, l'infirmier aussi, à bien prendre en main l'innovation, à l'intégrer dans les pratiques, voire à devenir force de proposition, à participer au développement de l'innovation, voire, qui sait, à être intrapreneur, voire entrepreneur. Et on a déjà du succès là, dans ce domaine, d'avoir des soignants qui deviennent vraiment force de proposition dans l'innovation, plutôt que de subir l'innovation qui leur viendrait d'ailleurs, donc d'être vraiment participatif. Et comme partenaire académique, on peut être sur des projets InnoSuisse, sur des projets de recherche nationale, donc le FNR. Et puis, en tant que partenaire académique, on a aussi des missions d'aider les institutions de soins à instaurer une certaine culture de l'innovation à l'interne.
Mmh. Donc les instituts de soins, ça peut être autant des centres hospitaliers que établissements médico-sociaux et j'en passe.
Absolument. Donc dans cet objectif d'utiliser l'innovation dans les soins pour adresser un certain nombre d'enjeux importants de la santé, eh bien, on ne peut pas se contenter, évidemment, de rester focalisé sur l'hôpital. Donc, on embarque toutes ces institutions avec nous. Donc, on a les hôpitaux cliniques, les CTR, les centres de traitement réhabilitation, les EMS et le soin à domicile.
Excellent. Et puis, je profite de faire deux apartés. Alors, la première, c'est pour signaler que cet enregistrement, on est en train de le faire dans la Haute École de la Santé La Source, et je peux que confirmer en fait que ce brassage qu'il y a entre étudiants, futurs infirmières et infirmiers, et d'autre part le CILAB, qui investigue dans le domaine de l'innovation, c'est vraiment un terreau fertile. C'est un lieu très inspirant au cœur de Lausanne. L'autre aparté, c'était pour signifier à nos auditeurs en dehors de Suisse, KinoSuisse, c'est donc la principale institution financée par l'État, donc la Confédération, et qui permet de financer l'innovation avec des deniers publics.
Bon, on a aussi entre avec les étudiants, les locaux, notre hôpital simulé, les experts, puisque tout le personnel, tous les enseignants, chercheurs de la source sont des gens qui ont travaillé dans les soins et nous servent aussi de terreau très fertile pour monter des focus group, pour monter des expérimentations justement dont je parlais, ou donner des avis d'experts sur des innovations.
Excellent, excellent. Et puis tu m'as aidé à ajouter un troisième mot. Hein. Le premier c'était santé, le deuxième c'était innovation. Bah, le troisième ce sera collaboration. Et puis bah, puisqu'on parlait de cela tout à l'heure, je me demandais comment se passait la collaboration au sein de cette Health Valley. Je me demandais quels étaient les liens par exemple que pouvait avoir CILAB avec les hôpitaux ou avec d'autres instituts de recherche ou encore avec les pharma. Tu peux nous en dire plus ?
C'est vrai, comme tu l'as dit, hein, le terme de vallée, moi, je dirais au début, il m'a bousculé un petit peu parce qu'il y a quelque chose de très ambitieux et je suis peut-être un peu timide par rapport à ça. On se compare à la Silicon Valley qui, d'un côté, est un petit peu has-been maintenant d'ailleurs. Et voilà, donc on a une ambition, mais l'avantage de cette ambition, c'est quand même que c'est fédérateur et ça permet de créer un partage au moins autour de cette ambition par tous les acteurs qui se trouvent dans cette Health Valley. La vallée, c'est aussi le drainage ben, de ses ambitions, mais aussi donc des compétences, des opportunités. Et donc, en fait, par définition, je crois que la Health Valley, c'est un lieu de collaboration. Maintenant, j'ai jeté un petit pavé dans la mare. Comme aiment bien dire les entrepreneurs, on n'est pas des bisounours. Donc, en fait, derrière ça, il y a de la compétition. Les entreprises peuvent être en compétition. Les assurances qui essayent de tirer une partie du jeu à elles. On compète tous sur la visibilité. On a de la compétition sur, l'aide de l'État, le soutien à l'innovation. Donc, c'est pas toujours simple non plus. En Suisse, on a pas du tout de culture de la compétition, c'est-à-dire d'une collaboration saine au sein même de structures qui, par ailleurs, peuvent être en compétition. Donc, ce n'est pas si simple non plus, mais c'est stimulant. Nous, on a quand même une grosse facilité parce que dans les soins, on est très transverse. Donc, on touche à tout, on touche à toutes les institutions. J'aime bien parler de l'innovation de dernier mal, j'aime parler du rapport avec les pharma. Alors qu'on soit dans des choses plus glamour, plus high-tech que sont la medtech ou la biotech, bah, par exemple, les pharma, aujourd'hui, il y en a qui se rendent compte que pour amener une molécule dans la bouche du patient, il faut encore passer entre deux par les mains du soignant et essayer de créer maintenant des univers ou des procédures finalement qui prennent vraiment tout cet écosystème en compte. Et nous, on peut les aider justement dans ce que j'appelle cette innovation de dernier mile. Hein, ils peuvent passer 10 ans à développer une molécule, mais nous, on va juste aider sur le dernier point. Donc, il y a cette transversalité qui nous est très utile. Puis aussi ce côté hands-on, parce qu'en fait, en montant des expérimentations qui sont juste utiles à faire passer une étape d'un projet innovant, nous, on n'est pas des incubateurs, on n'est pas un accélérateur, donc on peut être au service de ces autres structures de l'innovation. Et c'est comme ça qu'on a été contacté et qu'on collabore avec le startup, les PFL Startup Launchpad, par exemple, qu'on monte la collaboration avec l'HEIGVD aussi, qui est très actif aussi dans la santé, avec l'HEG de gestion aussi, qui a une spécialité sur la gestion de la santé. Donc là, on a vraiment des collaborations qui ont du sens et qui viennent tout seul. Je parlais d'accélérateur, ben le Biopôle, c'est un bon exemple. On a un Biopôle, partenaire historique à la réflexion de la création du H4. Eh bien, eux, ils accueillent des startups chez eux, mais ça a complètement du sens dans l'ensemble des services qu'ils offrent de les faire passer chez nous pour justement ce type d'expérimentation de terrain avec les experts, avec les soignants.
Thierry a cité un tas d'institutions de référence au sein de la Health Valley. Hein, pour la petite parenthèse, je ne vais pas résumer tous les acronymes parce que je ne m'en rappelle plus, mais c'est des écoles, des instituts de recherche, très bien.
Voilà. Donc le Biopôle, effectivement, le Biopôle, c'est un pôle axé sur la santé qui a épanage et qui accueille des startups.
Ne te casse pas la tête, je vais essayer de rajouter quelques notes d'émission pour ceux qui seraient vraiment curieux. Donc je réécouterai ça calmement et puis je rementionnerai ce que c'est que la HEIGVD ou le Biopôle Lausanne.
Voilà. Et puis la dernière chose qui nous aide, donc en fait on a parlé des collaborations avec qui, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est toutes les institutions de soins, sinon on peut pas vraiment cette approche systémique pour aborder les enjeux de la santé. Et ça, là, on est très facilité par le fait qu'on est une émanation de l'Institut de la Source, que ce soit en tant que syllabe, on en fait partie de l'Institut Haute École de la Santé de la Source. En tant que H4, ben, on en fait partie aussi parce qu'on est cette partie académique qui s'occupe des projets en santé, et puis on est cofinancé par l'Institut. Et ça nous donne vraiment, on a vraiment installé dans le monde des soins. On est une école de santé, et on est une école donc des sciences infirmières. Et donc on a une vraie fibre, une vraie connaissance, une vraie expérience maintenant du contact, du discours, du partage, de la compréhension et des besoins du monde infirmier. Et donc on est bien accueilli par le monde infirmier. Ça nous donne une position aussi, une force.
J'avais envie qu'on parle de tes projets, ceux que tu suis à présent. Et je me demandais les axes d'innovation médicale qui te parlent le plus actuellement. Éventuellement, s'il y avait des projets qui pouvaient illustrer ces axes, fais-nous rêver là.
En entier. Enfin, je vais essayer, mais le bémol par rapport au rêve, c'est que ce à quoi je pense, ça illustre vraiment ce côté très pragmatique ou pratique. Alors, par exemple, il y a un des axes, c'est la communication. Et au niveau high-tech, dans la communication, on est dans l'utilisation d'applications et de systèmes state-of-the-art, mais voilà, c'est pas forcément toujours déchirant, bien que ça peut être aussi appuyé par d'autres technologies, bien sûr, l'intelligence artificielle, tout l'aspect aussi de tenir compte des émotions, donc le emotional computing, par exemple. Pourquoi la communication? C'est parce qu'on a notamment fait un défi source, c'est-à-dire l'année passée, c'est un événement de hackathon dans l'innovation collaborative en soins. Et on a eu beaucoup de propositions des soignants qui sont autour de ça. Pourquoi? Parce qu'on sent vraiment chez les soignants ce besoin de partager plus l'information. Moi, dans toutes les focus groupes et les choses que je fais avec les soignants, je suis ébahi de voir ce métier extraordinaire, ces gens qui assurent quelque chose d'une qualité, d'une sécurité vraiment bluffante. Et eux, dans leur tête, ils se font du souci. Ils sont bluffants, et pourtant, il y a une intranquillité qui me paraît toujours dans les différents sujets abordés. C'est-à-dire, il y a une charge mentale d'avoir peur, de pas faire juste, de pas avoir l'information, de faire une erreur. Et c'est des gens qui vont triple vérifier tout ce qu'ils font. Et c'est une charge mentale, je pense, très lourde. On retrouve ça aussi chez la peur du patient de pas être pris en charge en fonction vraiment de ses spécificités, de sa personnalité, d'avoir un soin personnalisé ou de des fois pas être écouté. C'est peur. Et puis, il y a encore une troisième partie qui est le proche aidant. Le proche aidant qui a des fois le sentiment qui est épuisé parfois, puis qui a le sentiment de boucher des trous dans le système de santé.
Qui est en phase de reconsidération actuellement, hein, même si ce n'est pas à sa juste valeur qu'il est reconsidéré, mais oui, je trouve plutôt positif.
Tout à fait positif. Alors justement, un projet type qui est sorti du défi source, d'augmenter cette communication pour tranquilliser les esprits, stabiliser les choses. Là, c'est stabilisation par le partage des routines de vie du patient souffrant d'Alzheimer. C'était une application qui était orientée sur soulager le proche aidant, justement, pour assurer que ces routines se font de la bonne manière. Et puis, le questionnement qui vient et qu'on essaie maintenant de résoudre, c'est comment on peut intégrer ça avec la pratique professionnelle, parce que finalement, cette application, cette approche qui est basée sur des pictos, etc., qui est très, très bien pensée, elle va être un peu stand-alone, va vivre un peu dans sa petite vie juste dans les mains du proche aidant s'il n'y a pas une intégration avec les pratiques. Donc, il faut comprendre les pratiques autour de l'Alzheimer, c'est quoi, commençant aujourd'hui, c'est du papier, des classeurs, je ne sais pas encore. On doit explorer justement ça pour étendre le projet. Un autre axe intéressant, c'est tout ce qui est... il y a le télémonitoring, et je vais mettre dans le même sac, c'est un peu différent, mais le diagnostic sur place, ça, c'est des tendances importantes pour justement, de nouveau, dans la question des enjeux de la santé. Le diagnostic, c'est sur place, c'est notamment la question de l'autonomisation des infirmières à un certain niveau, pour pouvoir prendre des décisions, pas passer forcément par tout le système, pas forcément déplacer les patients sur l'hôpital pour tous les examens à réaliser. Là, on est aidé par la technologie, l'Internet des objets, les capteurs, tout ce qui est connecté, c'est pour ça que je parlais de télémonitoring tout à l'heure. Je vais prendre un exemple d'un projet qu'on héberge qu'on soutient ici à la Source dans le cadre du SILAB, c'est Technis, l'entreprise Technis qui a des tapis de détection de pression. Donc on marche, on a une pixelisation, on a une image qui montre comment se déplacent les gens.
On a déjà eu l'occasion d'en parler avec Victor Bourret, si je me rappelle bien.
Oui, tout à fait.
Donc une précédente interview à voir ou à revoir.
Voilà. Donc, dans l'axe de la santé, il y a une des utilisations des tapis techniques, c'est la détection de chute. Et là, on a justement quelque chose de pragmatique ou pratique qui est de comprendre, de les aider, de leur donner un environnement, pardon, pour éduquer, entraîner, tester leur intelligence artificielle. Cet environnement étant justement celui de l'hôpital simulé de la source qui nous est utile pour faire ça. Et puis, il y a une autre interrogation qui vient, qui pour moi est très prometteuse et très intéressante, c'est aussi de réfléchir, de pouvoir, en fait, non seulement détecter la chute, mais en fait, pouvoir détecter un déclin. C'est-à-dire d'être en amont, de voir les risques de déclin en pouvant analyser la marche, hein, donc en analysant les données des tapis et avec de l'intelligence artificielle, et de pouvoir faire des choses en amont et d'être, on a donc un lien entre ici le télémonitoring du patient chez lui et puis en plus de ça la notion quand même de médecine préventive, de arrêter de toujours réparer les pots cassés mais d'éviter qu'ils se cassent.
Ce que je trouve très intéressant avec une solution comme celle-ci, c'est qu'en fait, on ne se repose plus uniquement sur des réponses de patients qui peuvent parfois être davantage des perceptions que de la data. Mmh. On se repose vraiment sur la data qui est enregistrée en continu. Je vais donner un exemple tout bête, c'est que le nombre de fois qu'on se lève durant la nuit ou l'heure à laquelle on se lève durant la nuit, quelque chose qui est forcément mesuré par le pied qu'on pose à terre et les pas qu'on réalise en suivant, c'est quelque chose qui est qui peut être une précieuse indication pour le personnel soignant et dont le patient ne se rend pas forcément compte en fait.
Voilà, et puis il y a plusieurs approches pour détecter ces choses-là. Donc ici, avec Technis, ce dont j'ai parlé sur la prévention du déclin, ça c'est encore qu'un projet qui est dans nos têtes, hein. J'engage pas Technis là-dessus. Mais enfin, ça montre en fait comment on parle de choses d'extrêmement pratiques et puis que ça soulève d'autres questionnements qui, je pense, ont de l'avenir.
Questionnement passionnant. Mais je voulais revenir en fait à la Haute École de la Santé La Source. Et moi, ce que je me demandais, c'est... suite en fait à 2 années de pandémie qui ont eu forcément des incidences et de grosses incidences dont on a passablement parlé dans les médias pour les infirmières et les infirmiers. J'imagine que ça a aussi pu avoir des incidences pour les étudiantes et les étudiants. Je me demandais qu'est-ce qui avait pu changer au sein de la Haute École de la Santé La Source après ces 2 années de pandémie, donc de Covid-19, pour ceux qui l'auraient oublié.
Oui, alors... pour les étudiants, je suis pas très proche des étudiants, je donne quelques cours, effectivement, on a des modules d'innovation. Alors, comme toute école, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites à distance. Comme toute école, il y a eu une évolution, des fois tout à fait bénéfique, finalement, des outils d'enseignement et même d'approche. Parce que les MOOC, ça oblige à revoir les cours, ça oblige à amener des nouvelles cordes à son arc. Donc ça, je pense que c'est, quelque part, ça a été un bénéfice. Il y a eu un impact, alors très précis, que je cite, qui est directement en relation avec notre causerie, mais c'est quand même cet aspect que les étudiants ici ont été impliqués directement dans la gestion de la crise Covid. On a remplacé l'école, a eu l'agilité, c'est vraiment un travail extraordinaire, de remplacer des stages d'étudiants, tous ces stages qu'ils font dans leur formation, par prêter main forte aux équipes Covid. Et donc, en transformant les stages prévus avec ces nouvelles activités. Donc, ça a bien marché. Sauf erreur en 2020, que c'était surtout appliqué après, pas répéter toujours le même stage.
Un sacré exemple de résilience.
Donc, il y a une limite. Ils en ont pris beaucoup sur les épaules. Mais je pense que c'était aussi grandissant. Alors, sinon, à la source, on est comme toute entreprise. Hein, on a appris à télétravailler. La première heure ou la première demi-journée, on s'est dit bon, on va se retrouver au chômage technique. Et puis après, c'était un mois de folie parce que finalement, on en faisait plus que jamais. Parce que, en plus de s'entraîner dans la santé, donc les projets mûrissaient, sortaient et de partout. Tout le monde proposait des collaborations. Depuis, heureusement, c'est un petit peu calmé. Non, mais ce qui reste aussi, c'est que cette pandémie nous a fait du bien. On ne devrait pas dire ça comme ça, mais elle a plaidé vraiment pour notre cause. Mmh. En 2019, le WIPO, l'organisme mondial de la propriété intellectuelle, qui place d'ailleurs la Suisse toujours comme premier pays innovant depuis je ne sais pas combien d'années dans leur classification, ils ont édité leur rapport de l'année sur un spécial innovation en santé. Et si vous cherchez dans ce rapport de 400 pages le mot pandémie, il y a une citation qui dit « En cas de pandémie, c'est bon, les pays ont la connaissance, les structures de ça pour faire les vaccins. » Rien sur pénurie de masques. Et surtout, tous ces aspects pragmatico-pratiques, de nouveau, la réalité de terrain, c'est quoi? C'est les gens qui ne peuvent plus à l'hôpital, qui ne peuvent plus y aller. C'est les opérations qui sont différées. On n'a pas fini de payer le prix du Covid, hein, parce qu'on a par exemple des situations de tumeurs bénignes qui sont juste soigner maintenant un petit peu trop tard. Alors, les jours des gens ne sont pas en danger, mais on risque d'avoir plus de situations de maladies chroniques dues à ces retards d'hospitalisation et d'intervention. C'est l'isolement des gens en EMS. C'est les gens qui n'osent plus aller à l'hôpital et pour différentes pathologies, retardent leurs soins.
Je voulais t'évoquer un paradoxe, car si je ne m'abuse, il y a eu une explosion, ou peut-être que le mot est exagéré, hein, quand je parle d'explosion, du nombre d'étudiantes et d'étudiants qui se sont inscrits dans les nouvelles volées. En fait, je parle de paradoxe parce que je pensais que ça allait dégoûter les gens de la profession médicale, hein, que ce soit médecin, aide-soignante ou infirmière, et il ne semble pas que ce soit le cas, en tout cas à la Haute École de la Santé La Source.
Non, ce n'est pas le cas. Alors, on a une croissance du nombre d'étudiants quand même régulière. Donc ça, c'est... Mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont tournés vers la santé. Bah, comme je disais, ça a plaidé pour notre cause. Ça a aussi motivé les gens à se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'utile dans cette société ? Ben, une des choses utiles qu'on peut faire, c'est soigner les autres.
C'est une chouette conclusion. Et puis, bah, elle précède la conclusion que j'avais envie de faire à cet échange. Déjà, je te remercie beaucoup. J'ai bu tes paroles, Thierry. Merci pour tous ces éléments. Et la deuxième conclusion que j'imaginais, c'est par rapport à un événement qui ne va pas avoir lieu tout de suite, mais qui est prévu le 23 juin 2022. Et c'est à l'Institut et Haute École de la Santé La Source que ça va avoir lieu. Et je crois que c'est le parfait mélange de ce qui a été dit aujourd'hui, hein, parce qu'il va y avoir de la santé, bien sûr, mais également de la data. Hein, ça s'appelle Medicalytics. Là, je vais visser ma casquette de président de l'association La Data, qui, on va dire, accueille, accompagné de la Haute École de la Santé La Source, cette manifestation pour sa 3e édition. Le sujet, c'est un sujet que j'adore, c'est Health Data, territoire à déchiffrer. Hein, les Health Data faisant référence aux données très sensibles de santé et à la bonne manière de les manipuler et d'en faire profiter le plus grand nombre. En l'occurrence, la Haute École de la Santé La Source, représentée par toi, Thierry, bah vous avez prévu de faire un atelier interactif, puisque je me demandais, hein, sans trop révéler de ce qui va se passer le 23 juin, c'est qu'est-ce qui va se produire au moment de ton intervention.
J'aimerais juste revenir sur le sujet. Moi, j'étais très séduit par l'offre, et c'est pour ça, enfin, par la proposition de Medicalytics, ce territoire à déchiffrer, avec le jeu de mots à défricher, donc il y a tout ce côté exploratoire. Il y a pas mal de conférences sur les sujets de l'IA, de la data, et c'est complètement justifié parce qu'il y a plein de volets avec la question de l'anonymisation, comment on traite les données personnelles, la cybersécurité, puis surtout, ce que je trouve le plus intéressant en tant qu'innovateur ou participant à l'innovation, c'est vraiment les possibilités, les opportunités. Et j'ai eu la chance de faire un stage d'immersion à suivre des infirmières pendant 8 jours au CHUV, et je les vois remplir via le logiciel de gestion de flux de soins Soarian, mais des données incroyables, une mine d'or. C'est-à-dire qu'en fait, pour un service d'une vingtaine de lits, chaque jour, vous avez tous les signes vitaux des patients. Là, on est dans des services de médecine interne où il y a des diagnostics en cours, diagnostics différentiels, donc il y a beaucoup d'analyses du sang, des selles, des urines. On a toute la médication polymédiquée qui est donnée plusieurs fois par jour, qui est toute relevée dans Soarian, évidemment. Tout ça avec des profils personnalisés, avec tous les antécédents des patients dans ces lits. Et derrière ça, des estimations, des évaluations, des commentaires des infirmiers, infirmières qui vont donc de l'état de santé physiologique à l'état de santé psychique, aux états de troubles, de confusion, de réaction. On a la distance entre les deux fois où ils vont à celle. Et c'est une quantité de données incroyable. Aller chercher ça, notamment si on voulait chercher, par exemple, essayer d'analyser des dynamiques entre médicaments. Là, on a un terreau complètement incroyable et qui n'est pas encore exploité. Donc là, forcément, ça fait envie de faire plein de choses avec ces données. Je pense qu'on n'a pas fini de dénombrer les possibilités. On est bien dans l'intelligence artificielle parce que, bien sûr, parce qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de l'interaction de médicaments par rapport à tous ces paramètres que je viens de dire ? C'est pas l'œil humain qui va pouvoir le déterminer.
Et encore, donc, c'est que les données qui sont disponibles dans un centre hospitalier. Après, il y a encore toutes les données qui sont planées ici et là, ouais.
Oui, tout à fait. Donc là, ça m'a vraiment frappé. Donc j'étais séduit par le sujet. Mon rôle, ce que j'ai proposé, c'est vraiment une approche très syllabienne, c'est-à-dire il y a ce côté rencontre entre innovateurs, entre guillemets, c'est-à-dire les ingénieurs, designers, entrepreneurs, technologues, et puis les soignants, ou pour que chacun puisse parler de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils aimeraient faire et de leurs besoins, qu'on soit technologue ou soignant, et que les uns puissent découvrir ce que les autres peuvent faire pour eux. Donc l'idée de ces ateliers, c'est assez court, mais c'est quand même d'arriver à sortir deux ou trois concepts ou deux ou trois axes stratégiques sur l'utilisation de la data en santé.
Je rappelle peut-être le nom de cet atelier interactif qui se nomme Patient Flow and Data Flow, du pré au post-hospitalier, en sachant qu'un cycle complet de traitement d'un patient, il commence souvent en dehors, avant l'hôpital, simplement pour avoir les signaux qui justifient un traitement hospitalier. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer également à l'hôpital, donc une étape importante. Et finalement, il y a des choses qui se passent après le passage à l'hôpital, et donc de voir sur ces trois dimensions comment on peut améliorer l'expérience du patient. Et donc ça se passera le 23 juin 2022 à Lausanne, à l'Institut et Haute École de la Santé La Source. Et ça, c'est l'intervention de Thierry Dagaef qui va représenter SILAB, le laboratoire à innovation de l'Institut et Haute École de la Santé La Source. Et en sachant qu'il y aura d'autres experts dans le domaine de la santé et de la data qui vont parler de sujets en lien avec ces health data, territoires à déchiffrer. Je ne vais pas tous vous les citer, mais tout de go. Je me souviens du docteur Bernard Castels qui travaille pour le CHR, donc le Centre Hospitalier Régional d'Orléans, avec une belle expérience dans l'implémentation de solutions médicales embarquant de l'intelligence artificielle. On a le docteur Antoine Maisonneuve du Centre Hospitalier de Valenciennes qui va pouvoir nous parler des bénéfices que son équipe aux urgences a pu tirer d'une solution de gestion des flux et qui permet en fait autant d'anticiper les admissions aux urgences d'une part que le parcours des patients une fois qu'ils doivent rester à l'hôpital. Et puis, est-ce que j'en mets encore un petit dernier en bonus ? Oui, j'aimerais bien évoquer François Descaillets, qui est le responsable de la cellule gestion des flux au CHUV et qui a une expérience de plus de 10 ans dans un grand établissement de plus de 1000 lits. Voilà, j'en ai fini pour le moment avec mon tease. Vous pouvez vous inscrire.